Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité ?
Eh bien bonsoir, nous voici revenus dans les arènes de l'écologie avec chers gladiateurs et gladiatrices. Vous n'imaginez pas ce soir qui on a invité dans notre antre de non-conformistes. Eh bien on a invité la DGCCRF. Et oui, on a Ambroise Pascal, le délégué à la transition écologique de cette grande direction de Bercy. Voilà, qui vient contrôler, dont le métier est de contrôler les allégations écologiques sur les produits, sur les services. Donc bonjour Ambroise. Et puis on est accompagné naturellement de... je dis naturellement, parce qu'aujourd'hui c'est le cycle d'émission économie positive. Oui, parce qu'on est en compagnie de Béatrice Bellini, qui est professeure d'économie à Nanterre, à la chaire d'écologie positive UNESCO Nanterre. C'est bien ça, Béatrice? J'ai tout massacré, mais...
Ah, il y a UNESCO aussi,
qui est dedans. Voilà, le nom précis, c'est consommation durable et société inclusive.
Ah, parfait. Alors, oui, donc, naturellement, ça fait partie des petites approximations qui me sont communes. Bon, mais ce soir, on va donc commencer par la rubrique de Théo, qui va nous réveiller avec une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la semaine. Donc, écoutez, on va lancer Théo et puis on revient dans deux minutes. Vas-y Théo.
Bonsoir à tous, moi c'est Théo et ma mission de ce soir, ça va être de vous donner le sourire avec des bonnes nouvelles parce que dans le monde anxiogène qui est le nôtre, ça fait toujours du bien. Et ce soir, on va rester dans le thème de l'émission puisqu'on va parler de mode, on va parler de vêtements et plus précisément, on va parler de seconde main. Pour rappel, hein, la seconde main, c'est le fait d'acheter un objet, ou en l'occurrence un vêtement qui a déjà eu une vie, qui a déjà eu un ou une propriétaire qui n'en voulait plus, et qui, au lieu de le jeter, a décidé de le revendre, soit directement via des plateformes en ligne très connues, soit via des magasins à l'image des friperies. Et cette consommation de seconde main, elle est particulièrement intéressante dans le contexte environnemental qui est le nôtre, hein, c'est-à-dire un contexte de pression accrue sur les ressources, puisque, on le sait, lorsqu'on achète un vêtement, ou n'importe quel autre objet d'ailleurs, ça implique la consommation de ressources et d'énergie aussi, et tout ça peut avoir un impact environnemental et social plus ou moins fort. Or, la seconde main, précisément, permet de réduire drastiquement cet impact, puisque ça permet d'une part d'allonger la durée de vie de l'existant, et de limiter la production de biens neufs, puisque a priori, un t-shirt acheté d'occasion, c'est un t-shirt neuf qu'on n'achètera pas. Et accessoirement, acheté d'occasion, c'est aussi un bon moyen de faire des économies. Alors tout ça m'amène à ma bonne nouvelle du soir, à savoir que la seconde main en France, elle a le vent en poupe. Et ça, on le sait parce que les chiffres de 2025 sont sortis et qu'ils sont bons, voire très bons. Ainsi, on apprend par l'IFM, l'Institut français de la mode, qu'en 2025, près de 80% de la population française est impliquée dans le marché vestimentaire d'occasion, que ce soit comme vendeur ou comme acheteur. Vous avez bien entendu, près de 8 Français sur 10 ont acheté ou vendu un vêtement de seconde main en France en 2025. Alors attention, ça ne veut pas dire que 8 vêtements sur 10 sont achetés d'occasion, hein, loin de là, mais le marché de la seconde main française représente tout de même en moyenne 12% des achats d'habillement, ce qui en fait maintenant une filière non négligeable. Et d'ailleurs, ce chiffre remonte même à 17% chez les 18-34 ans. Et ce n'est pas tout, puisque si on prend le classement des plateformes de vente de vêtements en ligne, c'est Vinted qui arrive en tête, loin devant ses concurrents. Et puis au-delà de tout ça, tous ces chiffres encourageants, ils s'inscrivent aussi dans une dynamique plus durable, plus globale, puisque depuis 5 ans, en réalité, le marché de la seconde main vestimentaire connaît une croissance de 8 à 15% par an chaque année, ce qui est énorme, et tout porte à croire que ça va continuer sur cette lancée sur les prochaines années. Alors oui, certains essayent d'introduire Shine dans des grands magasins parisiens, mais la vraie tendance des Françaises et des Français, elle est là, c'est la seconde main. Alors je n'ai qu'une chose à vous dire, foncez en friperie, il y en a pour tous les goûts, c'est bon pour votre porte-monnaie et c'est bon pour la planète. Sur ce, je vous dis bonne soirée et à la semaine prochaine.
Eh bien, merci Théo, et puis merci pour ce coup de cœur pour la fripe. Bon, il n'y a pas de transition, Ben. Et toi, donc ta chronique de...
Si. Il n'y a
pas un enchaînement logique entre Ben et la fripe, mais bon, est-ce que tu...
Non, mais moi j'aurais aussi des bonnes nouvelles à vous annoncer.
Ah, mais c'est formidable, tu nous as fait un tour du monde à l'intérieur du périph, comme de chaque semaine.
Alors, j'avais très peur de n'avoir rien du tout à vous proposer ce soir.
J'aurais été rien. Hein.
Et François, je sais que tu m'aurais dit, bon, mais Ben, ça ne va pas du tout. Et finalement, j'ai pensé à des anniversaires.
Ah, allez, on t'écoute.
Non, pas le tien. Un autre. Et c'est le 10 décembre. Mais qu'est-ce que c'est que le 10 décembre ? Eh bien, c'est la journée mondiale, depuis 1948, la journée mondiale de la Déclaration des droits de l'homme. Ou droits humains.
Maintenant.
Merci, merci de rectifier, parce que sinon ce n'était pas politiquement correct. Enfin, on dit quand même pas mal les deux, mais...
Mais j'aime bien les droits humains, ça
et
fait.
Et 1948, bon, la plupart d'entre vous n'étaient pas là, rassurez-vous, moi non plus. Mais 1948, c'est l'année de la, au fond, de la première résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies pour la mise en place de cette déclaration. Et c'était quand même... Alors, je me suis dit, il faut quand même que je regarde plus loin, parce que dans un anniversaire, il peut y en avoir... ouais, c'est un peu comme le slogan de la SNCF. Un anniversaire peut en cacher un autre. Et il y en a un autre. Et il y en a un autre. C'est la journée de Terra Madre. Ça, c'est intéressant parce que c'est au fond le démarrage, le concept du slow food. Je sais que tu n'aimes pas l'anglais, François, mais bon...
l'anglais qui ne m'aime pas.
Ah bon ? D'accord. Donc c'est vraiment pour une bonne alimentation et juste pour tous. Ça c'est le principe même. Alors j'essaie de concilier les deux et je me suis aperçu qu'il y avait une bonne nouvelle que je risquais de rater. Alors je vais vous la donner en mille.
Avant l'oublier.
C'est un sondage. Oui, avant d'oublier. C'est un sondage qui a été fait par The Guardian. De Londres, et selon ce sondage, près de la moitié des citoyens européens considèrent Trump comme une figure néfaste pour le continent.
Et pour l'écologie.
Alors,
on fait pas de politique, ici on fait que de l'écologie.
Ici on fait que de l'écologie.
Oui, mais évidemment.
Donc voilà, c'est vrai que quand on parle des droits de l'homme, on peut toujours être un peu perturbé et contrarié par toutes sortes de choses. D'ailleurs, les enfants déportés, les enfants ukrainiens qui sont déportés en Russie, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations là-dessus. Pourtant, c'est vraiment un événement important. Mais je me suis dit que, entre les questions sur cette célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est en même temps presque un chant du cygne, dans la mesure où, bon, vous savez comme moi que le caractère universel de cette déclaration est en train de plus en plus d'être remis en cause par la fin, le deuil du multilatéralisme. Mais je vais m'arrêter là.
Mais bon, c'est pas encore enterré.
Non,
mais bon, ce sera un autre débat. Je crois que t'as...
Non.
On a prévu un débat là-dessus.
Il faudrait absolument qu'il y ait un débat sur les questions, par exemple, climatiques et l'environnement.
Mais
et
on n'a pas prévu une...
Et pour les droits de l'homme, il y a vraiment quelque chose. D'ailleurs, c'est bien que tu m'en parles. Merci, François, merci. Il y a un super rapport qui vient de sortir d'Amnesty International, justement sur les différentes violations des droits humains. T'as vu, j'ai pas dit droits de l'homme,
c'est
les
bien.
Droits humains en rapport avec le chaos climatique.
D'accord.
On dit plus le dérèglement climatique, c'est terminé.
Le bouleversement. Mais ça, on en parlera en début janvier, j'y reviendrai. Bon, moi, quant
reviens,
à moi, mon rôle,
reviens,
c'est
reviens
de vous...
Quand tu veux.
Merci Ben. Donc, quant à moi, mon rôle, c'est de vous donner des nouvelles de Madame la ministre. Donc, on a changé de ministre, mais on a toujours... on était censé avoir un agenda. Eh bien, écoutez, Madame, notre très discrète ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, eh bien, elle était partie en Chine avec le PR, comme on dit dans le jargon des communicants. Et quand j'ai préparé ma chronique, j'ai eu un effroi. Il n'y avait pas rien sur l'agenda. Plus rien. Je me suis dit, mais ça y est.
Ah, c'était donc clandestin.
Non, mais j'ai cru qu'elle était restée à Pékin ou dans un camp d'Ouïghours ou dans le désert du Taklamakan. Mais bon, heureusement, ce matin, tout allait bien. L'agenda était rempli. On sait donc que Madame la ministre...
N'était pas dans le désert de Gobi.
Non plus, ni dans le désert de Gobi. Et donc, elle était bien revenue à Pékin, de ouais. Pékin, et qu'elle a donné des nouvelles, en annonçant une réunion de travail avec ses deux ministres délégués, l'une à la mer, Catherine Chabot, et puis Mathieu Lelièvre, chargé de la transition écologique, un autre chargé de la transition écologique. Donc voilà, bon, tout va bien. Il y a quand même quelqu'un au ministère. Je suis rassuré. Demain, ce sera les directions régionales de l'environnement qui seront à l'honneur et qui occuperont l'activité de Monique Barbu. Et puis, dans l'après-midi, elle ira inaugurer une usine de batterie, mais alors pas de batterie de cuisine, hein, je vous rassure, une batterie au lithium à Dunkerque. Et puis, le vendredi, ce sera l'anniversaire, tu t'en as pas parlé, mais ce sera l'anniversaire des 10 ans des accords de Paris. Ce qui m'aura permis de faire un petit détour par le site du ministère et d'apprendre que, dont j'étais moi-même surpris,
dis-moi.
J'ai eu des nouvelles des 664 experts du GIEC. Et devinez où se sont-ils réunis, ces experts du GIEC ? Quelqu'un a une idée ici autour de la table ?
Oui.
Non, Ben, ça suffit. Béatrice, sais-tu où étaient nos experts, 664 experts du GIEC ? Tous les experts du GIEC réunis en un seul lieu.
Je te donne un tip.
La semaine dernière.
C'est pas loin.
Ah, mais ça y est, tu brûles les...
À Paris ?
Presque. À Saint-Denis. Alors, pas Saint-Denis de la Réunion, hein, bien sûr. À Saint-Denis, du Stade de France et de la Chapelle Royale, au bout de la ligne 13. Vous imaginez ça ? Eh ben, on n'en a pas parlé une seconde à la télé. Même Météo-Climat, qui a attendu que 35 ans pour parler du climat sur France 2, on n'a pas parlé.
Ça, ce serait une très très bonne chronique.
Voilà.
Tous les sujets dont on ne parle pas.
D'accord. Eh bien, écoute, on en parlera bientôt avec Eva Morel de Quota Climat qu'on a rencontré hier soir et qu'on a invité. Alors, espérons qu'ils viennent cette fois-ci. Mais voilà. Bon, ceci étant, on a terminé un petit peu notre chronique générale et on va pouvoir commencer à parler de notre sujet fondamental et de nos invités, hein, sur l'achat et sur le contrôle des mentions vertes. Donc la parole verte, est-ce qu'on peut faire confiance aux marques ? Et on a deux spécialistes, l'une avec Béatrice Bellini qui fait ça depuis des années, qui travaille sur le sujet et observe le comportement des entreprises sur leur politique écologique et environnementale. Et puis Ambroise Pascal qui est le colonel, comment on appelle ça, la DGCCRF, parce que bon, je vous le dis, on fait une petite photo radiophonique. Ambroise Pascal, c'est quand même quelqu'un de sérieux, hein, ça rigole pas, c'est le port martial du polytechnicien. alors mon colonel, on fait quoi, la police de la consommation?
On protège les consommateurs et on s'efforce à la fois de faire appliquer un certain nombre de règles et aussi de les faire comprendre, d'accompagner les entreprises dans le respect de ces règles, de rendre compte de notre action. Et en matière de transition écologique, ça a conduit à s'intéresser à la consommation durable, à la fois à l'information des consommateurs sur les caractéristiques environnementales de leurs achats, et également à l'application de leurs droits, puisqu'ils ont un certain nombre de droits qui les protègent et qui protègent conjointement l'environnement. Donc c'est autour de ces missions de protection qu'on essaie d'articuler, de travailler avec les autres ministères.
Donc protéger les consommateurs contre les...
Avec quels moyens ?
Alors, avec les moyens d'une administration centrale et d'un réseau territorial d'enquêteurs principalement. La DGCCRF, c'est une des directions du ministère de l'Économie. Et elle s'appuie sur un réseau de services déconcentrés au niveau régional et au niveau départemental, partout sur le territoire.
Parce que la DGCCRF, on la connaît, c'est celle qui fait trembler les magouilleurs d'étiquettes, qui va s'attaquer aux...
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Aux industriels qui oublieraient les contraintes sanitaires. Mais c'est vrai qu'on ne savait pas que la DGCCRF s'occupait, avait une division ou une délégation, comme on dit, peut-être, pour être moins martial.
C'est l'Interpol de...
Sur la transition. Depuis quand vous faites de la transition écologique à la DGCCRF ?
Alors, on a plusieurs missions. On a une mission en matière de sécurité des produits non alimentaires. On a des missions aussi en matière de respect des règles de concurrence. Et puis, on a une mission très large de protection économique des consommateurs qui porte notamment sur l'information des consommateurs. Et donc, à ce titre-là, on fait de la transition écologique depuis belle lurette parce que, notamment, les allégations environnementales sur les produits, ce n'est pas quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qu'on contrôle depuis longtemps. On le fait néanmoins de manière plus structurée, plus systématique depuis au moins 4 ou 5 ans, à une époque où ces allégations, ces revendications ont pris plus de place sur le marché, dans ce qui est présenté aux consommateurs, probablement plus de place dans les décisions d'achat aussi. Et par ailleurs, on intervient sur les politiques publiques de consommation en général, hein, parce que dès qu'une politique publique implique ou impacte les consommateurs, ça nous conduit à nous y intéresser.
Donnez-nous un exemple.
Par exemple, les politiques d'économie circulaire.
On en parlait tout à l'heure.
Voilà, l'économie circulaire qui cherche à réduire les impacts sur les ressources naturelles, à optimiser certains flux, à donner des alternatives à l'achat neuf. Hein, c'était mentionné dans la chronique d'ouverture d'émission. Sur ces différentes étapes, qu'on parle de la conception des produits, qu'on parle de l'allongement de leur durée de vie, qu'on parle de la prévention des déchets, à chaque fois, il y a des obligations pour les professionnels, il y a de l'information des consommateurs, il y a des droits d'avoir accès à certaines pratiques. Et donc ça, ça donne lieu notamment à des contrôles pour vérifier sur le terrain.
Et ça, c'est vous.
Et ça, c'est nous.
Alors, vous êtes combien dans cette structure ?
En tout, y compris les enquêteurs sur le terrain, 3000 personnes à peu près.
Ah ouais.
Mais pour
l'ensemble des missions, bien sûr.
Et combien sont consacrés à la transition écologique ?
Alors, beaucoup de monde, mais souvent en partie pour une part de leur activité, parce que si je prends un exemple sectoriel...
Donc c'est transversal, c'est pas une division...
Exactement. Si je prends l'exemple des contrôles, on a parlé des textiles tout à l'heure lors de la chronique, sur les textiles, il y a des tas de choses à contrôler. Il y a l'étiquetage, il y a l'information sur les prix, et puis il y a aussi des dispositions plus spécifiquement environnementales sur la gestion des invendus, par exemple. Sur des problématiques également d'information sur les caractéristiques environnementales de ces produits. Bien souvent, les contrôles se portent de manière globale sur un produit, sur une filière, et pas uniquement sur les aspects environnementaux. Après, il y a un certain nombre de thématiques d'enquête qui sont uniquement dédiées, disons, à la consommation durable ou à la transition écologique. Hein. C'est le cas sur la lutte contre le greenwashing, c'est le cas sur la lutte contre les fraudes en matière de rénovation énergétique. Donc, il y a bien sûr grand sujet mobilisateur pour qui occupe plusieurs dizaines d'enquêteurs sur le terrain.
Et ceux qui n'ont rien à voir avec l'environnement ? Est-ce qu'il y en a certains qui n'ont rien à voir avec l'environnement ?
C'est devenu une discipline obligatoire.
C'est un incontournable parmi nos priorités. Après, je ne dirais pas que toutes les actions de contrôle sont liées à l'environnement. Bien sûr, quand on enquête sur des aspects d'entente anticoncurrentielle,
d'éco-criminalité,
dans des domaines qui ne sont pas liés à l'environnement, on n'est pas, on n'est pas uniquement sur cette question-là. On s'intéresse à la protection du pouvoir d'achat. Alors parfois, il y a des liens. Hein. Ouais. On s'intéresse à l'accompagnement de la transition numérique. Ça couvre toute l'économie et donc toutes les mutations de l'économie et de la consommation.
Bon, écoutez, on va approfondir le sujet tout à l'heure. On va demander à Béatrice ce qu'elle voit depuis sa chaire de l'UNESCO, ce qu'elle observe comme changement et mutation. Mais en attendant, on peut passer une petite musique, bien sûr. Et ce soir, c'est Armand qui a choisi la musique.
Je suis fatiguée. fatigué de pleurer dès le réveil. J'écoute mon passé qui fait n'importe quoi. Cœur est caché en dessous d'un corps de bois. J'essaie d'oublier ce qui me met hors de moi. J'ai tout mis dans un coup de bluff. Je ressens même plus la douleur. Le bleu se mélange pas aux autres couleurs. Je me sens seul depuis gamine, comme une randonnée dans le désert. Eux ils pensent que c'est facile, ils oublient que ce qui est beau est fragile. Mon frère trouve ça étrange d'entendre ma voix sur de la musique. Je veux pas que tu t'accroches, je veux pas que tu me colles, mais je veux pas que tu glisses. Il fait un peu froid dans cette ville. Quand il fait froid, j'ai plus de voix. Je veux rentrer dans le sud, moi. Mon étoile flotte au-dessus de moi. Y'a pas d'étoile dans cette ville. Le coup blanc sur un pull, moi. Ce ciel est gris, je veux plus le voir. Je dois rentrer, moi, j'ai plus le choix.
Donc, bah, nous voici revenus dans les arènes de l'écologie. On laissera Armand nous désannoncer cette musique. Mais oui, alors donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Béatrice, tu voulais nous apporter quelques précisions sur cette thématique des allégations, du contrôle. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans la parole des marques en matière d'écologie ? Il y a tout, on a beaucoup parlé de greenwashing, maintenant c'est devenu même un mot que moi je comprends. Et donc, allez, je te laisse la parole.
Donc effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que les consommateurs sont sensibles à l'affichage environnemental, aux aspects éthiques, que ce soit environnemental et social, ou social. Après, une question se pose aussi, alors peut-être qu'on l'abordera plus tard, c'est la question du surpris. Alors,
L'effet de surprise ou le...
Non, l'effet de pouvoir payer plus cher pour cela. Parce que une grande majorité des consommateurs souhaitent des produits plus éthiques...
Mais ils ne vont pas payer plus cher.
Voilà, la question du surpris se pose. Alors
D'où le vous le valez bien, non ? C'est pas ça ?
Donc, on a énormément d'affichages. Les affichages ont explosé sur tout type de produits. Et je pense qu'effectivement, le fait de pouvoir contrôler ces affichages, ce qu'il y a derrière, c'est vraiment quelque chose de très important pour protéger le consommateur.
Parce qu'en même temps que la préoccupation augmente, on a l'impression que le mensonge se développe. Et c'est là où on a besoin de la police de la consommation. Donc
désinformation, en tout cas, en général.
Parce qu'effectivement, du grand pipotage, on en a vu beaucoup, quoi. Alors, est-ce que quelqu'un entre vous deux est capable de nous dire ça monte, ça descend ? Est-ce qu'aujourd'hui, les marques sont plus crédibles qu'il y a quelques années ou au contraire, moins ?
Est-ce qu'il y a un baromètre, ouais, pour tout ce qui est...
La confiance dans les...
Ça existe, hein ?
Est-ce qu'il y a peut-être laisser nos invités répondre.
Oui, il y a des baromètres, il y a des enquêtes d'opinion. Là, je ne parle pas des enquêtes de la DGCCRF, mais ce que disent globalement les enquêtes d'opinion qui existent sur cette question, c'est que beaucoup de consommateurs ne font pas vraiment confiance, effectivement. Dans le dernier baromètre établi pour l'ADEME par Greenflex, en gros, il y a 20% qui font confiance, 30% qui ne font pas confiance, et puis les 50% qui restent, qui pensent que ça peut être un premier pas, mais qu'il faut des preuves. Et cette notion de preuve, c'est au cœur de notre métier, pour le coup, parce que ce que vont chercher nos enquêteurs, c'est essentiellement des preuves, des justifications et des pratiques commerciales trompeuses. Qu'est-ce qu'on appelle une pratique commerciale trompeuse sur l'information du consommateur? Ça peut être une promesse mensongère, ça peut être quelque chose qui n'est pas justifié, une entreprise qui affiche des labels qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont plus, ou qui extrapole à toute leur offre une caractéristique qui peut exister que pour un produit. Il y a la question de mettre en avant des projets, des performances futures, des objectifs, sans que ce soit forcément rattaché à des actions concrètes. Et donc tout ça, c'est le type d'éléments que nos inspecteurs peuvent aller vérifier pour vérifier qu'il y a une matérialité.
Alors est-ce que vous avez fait un palmarès des annonces les plus...
Rocambolesques.
Rocambolesques. Parce que vous avez de quoi nous faire rigoler un petit peu.
Alors je pense pas de quoi rigoler.
C'est important. À la radio, c'est important d'avoir...
Dans une approche de palmarès, mais en tout cas, ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre compte de ces actions de contrôle en donnant des exemples.
Non, mais des gros bobards. Est-ce que vous avez démasqué des gros bobards récemment?
Un exemple pour illustrer le fait qu'il peut y avoir des choses qui sont jamais vraies, c'est les promesses trop vagues, trop génériques. Moi, je dis souvent, bon pour l'environnement, ça veut rien dire. Et donc, au passage, ça fait aussi un levier pour le consommateur pour faire attention, parce que voir des promesses trop vagues de ce type.
Donc tout produit qui dirait bon pour la planète, bon pour l'environnement, vaut mieux se dire c'est un pipoteur.
Il faut se méfier en tout cas. Après, il y a une autre famille d'allégations qui est plus difficile à contrôler, mais c'est tout ce qui va être en manque de justification. Un professionnel qui revendique que sur les matières utilisées, on l'a rencontré sur des cas de matelas par exemple, qui revendiquait d'utiliser des fibres recyclées et en plus issues d'opérations de dépollution des océans. Donc c'était présenté comme extrêmement vertueux. Et en fait, ce n'était pas à 100% faux, mais c'était vrai pour 8% de son approvisionnement en matières premières. Oui, donc ça se voit en demandant des preuves.
Oui, c'est le pâté de l'alouette, quoi.
C'est vrai que c'est pas non plus évident à juger parce que l'environnement, c'est multi-impact. Mmh. Et en fait, on ne peut pas traiter de tous les impacts en même temps. Donc, il y a une priorisation qui est faite. Donc, cette priorisation, elle doit normalement être différente en fonction des produits. Par exemple, on sait pour le textile, les microparticules de plastique, c'est important. Cette pollution des eaux est importante à intégrer. Et pourtant, quelquefois, la partie émission carbone, elle prend une grosse part, alors que ce n'est pas le plus important. Mais pour le consommateur, ce n'est pas évident, parce qu'il n'y a pas de règle commune pour tous les produits.
Ah oui, effectivement, on a un peu tendance à chercher des thermomètres, alors que c'est des multifactoriels, donc c'est des radars qui devraient pouvoir, des spectres, comme sur les appareils de photos, mais bon, on n'achète pas tous les jours des appareils de photos.
Et là, on parle de la France, des produits qui sont vendus en France, mais c'est vrai que la situation, elle est différente. Alors, en France métropolitaine, mais elle peut être différente.
Comptez aborder sur cette question de la révolution du commerce, qui est assez récente, mais bon, dans un deuxième temps, on va essayer d'abord de voir...
comment on triche chez nous et pas à l'étranger.
Voilà, comment au moins les gens, les industriels ou les commerçants de chez nous pourraient avoir tendance à tordre la vérité. Et puis après, effectivement, on regardera cette question du bouleversement très récent de l'économie Internet. Quoi.
Mais... Alors, c'est pas ce côté-là que je voulais dire. C'est, par exemple, si on est sur un territoire ilien, La Réunion, on peut peut-être prioriser d'autre chose que si on est
en métropole.
Bon, nous,
parce qu'on a des filières qui existent et donc la situation est vraiment différente. Donc, mais c'est vrai que c'est compliqué à comprendre parce que déjà l'environnement c'est multi-impact, multi-étape et après on a une complexité qui se rajoute. Mais il faut accepter la multi-complexité et je pense qu'effectivement ça ne rend pas le travail facile. Mais dans tous les cas, il est vraiment...
Alors, après, effectivement, quand on est ces questions de transition écologique, c'est aussi quelquefois la bouteille à la mer et puis créer des effets d'aubaine. Il y a donc la question des panneaux solaires, le matraquage, le démarchage téléphonique. Vous y pouvez quelque chose là-dessus Oui. Monsieur Ambroise Pascal.
Bien sûr, et ça permet de réagir à ce qui a été évoqué tout à l'heure sur le pouvoir d'achat, le fait que certaines pratiques de consommation, certains choix de consommation durable coûtent effectivement plus cher, c'est vrai, mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui sont source d'économie ou d'amélioration de la santé, de la qualité de vie.
Par exemple.
Ça, il ne faut pas le négliger. Ben, par exemple, le fait de pouvoir faire durer un produit plus longtemps, le faire réparer, le fait de pouvoir avoir des alternatives à l'achat neuf, le fait de pouvoir emporter des doggy bags ou d'avoir accès à de l'eau potable gratuite quand on va au restaurant, des sujets de ce type-là, des possibilités d'accès à la vente en vrac de manière démocratisée, accessible sur le territoire. C'est des choses qui se développent, qui font l'objet de contraintes ou d'incitations selon les cas pour les professionnels. Donc c'est des vrais droits des consommateurs. Hein. Quand je parlais tout à l'heure de protection, c'est bien pour protéger, pour donner des droits, pour s'assurer que la consommation durable soit plus accessible, y compris en termes économiques. Et donc, quand on parle de fraude, il y a des impacts, bien évidemment, sur le pouvoir d'achat. Le cas de la rénovation énergétique en est emblématique. Ça implique des investissements.
Et puis, une politique importante de l'État.
Des aides publiques.
Il y a beaucoup d'argent.
Exactement. Il y a beaucoup d'argent public qui est en jeu. Et en général, quand il y a des aides publiques, il y a aussi, ça suscite la convoitise de fraudeurs. C'est un des domaines dans lequel on reçoit le plus de signalements de consommateurs, d'ailleurs. Ce qui est assez important, c'est qu'à la fois, ça peut être des préjudices économiques importants pour les consommateurs, et c'est aussi un préjudice important pour la transition écologique, parce que la rénovation énergétique des logements, c'est quand même un des leviers essentiels de la décarbonation du logement, du chauffage. Les griefs, hein, vous avez mentionné le principal, le démarchage téléphonique, c'est près de 80% des signalements qu'on reçoit. Malheureusement, il y en a d'autres. Hein. Il y a des collectes abusives de données, il y a des opérateurs qui se présentent comme mandatés par des organismes publics, qui présentent le reste à charge comme quasiment nul, alors que in fine, c'est pas le cas, qui installent des produits de qualité moindre par rapport à ce qui a été annoncé. Donc là, on voit les impacts environnementaux derrière, les impacts sur les économies d'énergie, parce que la facture va pas forcément baisser autant que le consommateur l'espérait. Donc le combat continue là-dessus. On a contrôlé près de 1000 établissements l'année dernière. Hein. C'est un domaine où on intensifie les contrôles.
Ça, c'est votre cœur de métier. C'est vous le monsieur qui allait contrôler ça.
Alors, c'est nos enquêteurs en lien avec d'autres administrations, parce qu'évidemment, on ne travaille pas seul. Hein, il y a des coordinations avec la police, avec la gendarmerie, avec l'agence de l'habitat. Il y a beaucoup d'organismes qui essayent d'œuvrer à la solidité de ce système. Dans certains cas, on a affaire à des vrais acteurs crapuleux dans ce secteur, hein, organisé en réseau, avec une vraie industrialisation de la fraude. Et donc, ça prend une dimension, y compris en lien avec les forces de police. C'est un des domaines aussi où les suites des contrôles peuvent aller jusqu'à des peines de prison. Parce que, voilà, il y a des cas qui
relèvent. Il y a des gens qui sont en prison pour avoir fraudé au nom de l'environnement, quoi.
Oui, et sur l'installation d'équipements de rénovation énergétique, hein, il y a effectivement... Ça peut aller jusqu'à de la confiscation de biens. Il peut aussi y avoir des amendes administratives d'un montant très significatif sur le démarchage téléphonique qui est interdit.
C'est toujours pareil, on dit toujours la loi prévoit, c'est possible.
Non, là c'est effectif. Dans les cas les plus graves, il y a des condamnations qui sont prononcées.
Et ça, par contre, ça fait jamais
la une.
Ni la une, ni, ni la brève. J'ai jamais vu de papier là-dessus, moi.
Il y a plusieurs cas, à la fois par un exemple en novembre 2024 sur de l'installation de panneaux solaires, des amendes de 50 000 euros, 4 ans de prison dont 18 mois ferme, c'est des peines qui ont été prononcées, sur du démarchage téléphonique abusif, sur des montants dissuasifs jusqu'à 300 000 euros qui ont été prononcés à nouveau l'année dernière dans le Bas-Rhin. C'est pas des cas théoriques prévus par le droit, ça va
plus loin. Je peux vous montrer mon téléphone, j'en reçois à peu près tous les jours. Il y en a un qui s'appelle Marc, qui est naturellement une voix enregistrée, qui m'appelle tous les jours pour me dire que le ministère de la transition écologique a prévu je sais plus trop quoi, et il a toujours pas compris que j'étais pas propriétaire et que je pouvais pas installer de panneaux solaire sur ma maison, mais il continue, quoi. Et c'est ahurissant parce qu'effectivement, je ne dois pas être le seul à avoir un téléphone
rien,
en France.
Est-ce qu'il risque quelque chose?
Et ben voilà, c'est ça, ce Gugus, comment on peut le... Moi, je peux vous donner les numéros parce que j'ai beau le bloquer, il en retrouve un autre. Et puis, naturellement, il prend un numéro qui pourrait être un de mes informateurs ou de mes clients dans mon boulot, donc je ne peux pas me permettre de le zapper.
Oui. Bah, effectivement, il y a des difficultés, y compris pour l'enquête de ce type-là, c'est-à-dire que les numéros, ils changent, les entreprises même, elles changent, d'où ce besoin de coopération, de partage de signalement entre administrations et de nouvelles possibilités de bloquer ces personnes. C'est des choses qui ont évolué encore récemment dans la loi pour permettre des procédures de suspension des agréments, par exemple, ou du label RGE qui permet à ces entreprises d'obtenir certaines aides publiques. Ça, c'est des choses qui peuvent aujourd'hui, sur lesquelles on peut aller plus loin dans les suites donner aux enquêtes indépendamment des condamnations, mais pour bloquer l'activité future de ces professionnels.
Ouais, parce que non seulement ils grugent, ils volent, mais surtout ils décrédibilisent totalement l'action de public et puis décrédibilisent entre guillemets la cause environnementale. Quoi. Oui, c'est ahurissant.
Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut même généraliser à l'ensemble des problématiques, je dirais, liées à la consommation durable, à la transition écologique de la consommation, même sur des choses plus quotidiennes, disons comme des achats de produits bio ou des fraudes sur l'origine des produits ou de tromperies sur les caractéristiques environnementales des produits. Quand un consommateur a été éventuellement prêt à mettre un petit peu plus d'argent pour ça...
Ou d'y passer un peu de temps.
Ou d'y passer du temps, effectivement, c'est engageant. Et s'il est trompé, il n'aura peut-être pas envie d'y revenir, y compris sur d'autres produits. Et donc, ça porte atteinte à son portefeuille, ça porte aussi atteinte à toutes les entreprises qui jouent le jeu, qui respectent les règles et qui essayent d'aller dans le bon sens. Il y a vraiment ce double effet préjudiciable à la fois aux consommateurs, mais aussi aux concurrents sur le marché.
Béatrice, avais-tu quelque chose à rajouter ?
Non, pas du tout. Je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit, il est important d'intervenir et peut-être qu'on bah, soit mieux informé des risques.
On manque de faits, souvent.
Ouais,
et c'est vrai que la presse ne relaie pas tellement ce genre d'informations.
Pourtant, on s'occupe des chiens écrasés d'habitude. Hein, mais...
Non, mais il faut écouter Radio Aligre pour entendre parler de ces violations.
Les violations, non, mais effectivement, ce qui est fait contre pour juguler ce genre de phénomène. Mais la question qui se pose, c'est, ça va en augmentant ? Est-ce que ça fait... on dit que l'insécurité augmente. Non, alors bon, pas tout le monde dit ça, mais bon, il y a des gens bien, bien intentionnés qui disent ça. Mais est-ce que sur ce terrain de la délinquance environnementale, ça augmente ou c'est stable ou ça a toujours existé ? Que nous dit votre baromètre ?
Alors, nous, on ne peut pas répondre à cette question pour une raison qui est liée, j'espère, à l'efficacité de notre travail de terrain, c'est-à-dire que les contrôles qu'on mène, ils sont ciblés. Et ils sont ciblés là où on pense qu'il y a le plus de risques d'avoir des fraudes ou qu'il y a le plus de risques d'avoir des non-conformités. Et donc, quand on rend compte de notre action, ceux qui s'intéressent peuvent consulter notre site internet, il y a moult comptes rendus, bilans d'enquête avec des taux de non-conformité, de suite sur greenwashing, par exemple, en 2023-2024, 15% de manquements graves, 15% de manquements moins graves qui ont donné lieu à des avertissements pour rappeler le droit. Mais ces données-là ne se prétendent pas représentatives du marché. Ce n'est pas une photographie de l'état de la conformité des allégations environnementales parce qu'on espère avoir été cherché dans des secteurs ou des entreprises via les signalements, via l'analyse du marché. Et donc, on ne peut pas dresser le portrait ou la tendance. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des pratiques qui évoluent et qu'il y a des choses qui peut-être sont un peu moins fréquentes, c'est des allégations où il n'y a absolument aucun justificatif qui sont sortis de nulle part. Mais par contre, ça se reporte peut-être sur des allégations complexes à justifier, des choses qui ont l'air précises mais pour lesquelles il n'y a pas de preuves, ou alors des allégations à l'échelle des entreprises elles-mêmes ou de leur activité et pas du produit de manière précise. Et ça, c'est un défi d'arriver à comprendre
ce que vous nous dites, des menteurs, il y en a toujours, mais ils mentent mieux, quoi.
En tout cas, il y a des pratiques qui se diversifient, qui sont plus compliquées et on essaie de s'adapter en permanence. Pour prendre un autre exemple sur les scores, vous parliez tout à l'heure de l'indice de réparabilité. L'indice de réparabilité, il existe depuis 2021. Au début, qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé vérifier qu'il était présent. C'est un affichage obligatoire pour certains produits électroménagers notamment, sur l'étiquette ou l'affichage à côté du produit ou en ligne. Donc on va d'abord voir si c'est là. si c'est présent, si les distributeurs le mettent à disposition. Mais plus récemment, on essaye d'aller voir aussi, est-ce qu'il y a des fraudes dans le calcul de cet indice ? Et là...
Le verdict, alors ?
on comprend bien, en tout cas, que c'est plus compliqué à diagnostiquer, parce qu'aller voir si un affichage est présent dans un rayon de magasin, on peut aisément aller faire des milliers de références, voir si ça marche. Ensuite, aller contrôler s'il y a des fraudes, ça implique de s'intéresser à des justificatifs, parce qu'il y a des critères sur la disponibilité des pièces détachées, sur leur prix, sur la démontabilité du produit. Là, tout de suite, il faut rentrer dans la machine.
En même temps, ces pratiques et cette attention des consommateurs augmente. Il y a des clubs de réparabilité un peu partout. Ça m'amuse, mais bon. Ce club de bricolage, on n'imaginait pas ça il y a quelques années. Ça fait partie des nouvelles pratiques qui sont plutôt sympas. Effectivement, il y a aussi... on pourrait mobiliser les gens, ils pourraient vous faire des retours. Est-ce que vous travaillez avec ces clubs de...
Alors, on travaille avec les consommateurs en général et avec les parties prenantes, disons. Les associations de consommateurs, c'est évidemment des interlocuteurs historiques et de confiance pour DGCCRF. Sur les thématiques environnementales, on se rapproche aussi des ONG environnementales. Et il y en a beaucoup qui travaillent sur des thématiques de consommation. Vous parliez de quotas climat tout à l'heure. Vous parliez de questions de réparabilité. Il y a des acteurs comme Alta l'obsolescence programmée avec qui on échange aussi régulièrement, à la fois sur les problématiques qu'ils dénoncent.
C'est comme tout, il y a des ONG qui ont, on va dire, un peu des actions parapluies globales, et puis il y a plein de petites associations. Est-ce que vous êtes en lien avec elles ?
Alors, déjà avec les associations les plus connues, les principales qui interviennent sur des questions de consommation, c'est quelque chose qui est en cours. Ce qu'on encourage aussi, c'est à nous faire des signalements. On le fait et on rencontre un certain succès, je veux dire, auprès du grand public, des consommateurs, avec notre outil qui est Signal Conso, qui permet à chacun, en premier lieu, de signaler aux professionnels les problèmes de consommation qu'il a rencontrés, mais en second lieu à nous, puisque nous, on enregistre tout ça et on s'en sert pour le ciblage de nos contrôles. Et ça, depuis maintenant près de 2 ans, il y a un parcours qui a été étoffé pour permettre aux consommateurs de signaler des problèmes en matière de consommation durable, que ce soit des allégations environnementales ou d'autres problématiques sur les droits, sur l'économie circulaire et autres. Ensuite, il y a un autre champ qui est celui des signalements des professionnels ou des associations, des gens qui peuvent avoir des choses plus précises à nous dire.
Des interprofessions, par exemple.
Par exemple, des fédérations, par exemple des ONG qui vont avoir travaillé le sujet, qui peuvent avoir des signaux faibles aussi des pratiques qui évoluent et qui peuvent être désireuses d'attirer l'attention de la DGCCRF. On a lancé, par exemple, l'année dernière, un appel à signalement auprès des réparateurs. Parce que les réparateurs, ils voient passer plein de produits. Ils peuvent avoir une attention à ce qui est incohérent entre ce qui est revendiqué dans l'indice de réparabilité et ce qu'ils voient en vrai dans leur métier. Et ça, c'est bien sûr une compétence qu'il est extrêmement difficile de développer en interne. Mais par contre, on peut faire appel aux gens qui savent
pour nous parler. On ne voit pas Bercy avec des tournevis.
On a des laboratoires, malgré tout. Mais c'est vrai que ça n'a pas la même force de frappe, peut-être, que si les parties prenantes se mobilisent pour contribuer notamment à cet effort de ciblage. Parce qu'on doit être le plus précis possible quand on lance des contrôles utiliser
bon, en
à
tout cas, ça peut être des démarches citoyennes, on n'appelle pas spécialement à la délation, mais pour le coup,
il y a des
processus
de signalement qui existent.
Ok, bon, écoutez, on va respirer un petit peu, à moins que Béatrice, avant la pause musicale, veuille nous rajouter un point.
Non, je pense que peut-être qu'après, on pourra revenir.
Ou tu veux respirer un coup
sur la réparabilité. Ouais.
Bon, on va écouter un peu de musique alors.
Quelques palmiers en friche nous protègent contre l'orage. Ce soir un vent de force 8 souffle sur les bâches. Des cordes far west à l'ouest du triangle d'or. C'est l'ancienne Birmanie, pays aux 1000 pagodes. Petite Nour est un genre d'héroïne rare qui mène sa barque d'orpheline chez les Rohingyas. Ce peuple d'apatrides dont plus personne se soucie. Pas même la Nobel de la paix Aung San Suu Kyi. Elle travaille pour un patron, exploitant agricole, depuis que ses parents sont morts dans la cale d'un boat people. Partie aux mains de passeurs pour trouver meilleure vie, avec par jour une portion de riz et buvant leur propre urine. Elle cultive sous le soleil la plantation de caoutchouc. Une mèche tombante sur l'œil, Tanaka en poudre sur les joues. Employeur d'un homme qui lui refuse le statut de birman, et au visage moins souriant que les statues de Bouddha. Un travail illégal qui lui fournit quelques kiats, lui permettra de carreler sa case avec une toile de natte. Mais surtout, lui évitera de vendre sa ration de riz, celle offerte par les actions de lutte contre la famine. Pour l'homme qu'elle appelle boss, elle n'est qu'une Bengali. Il convoite son corps de femme encore à peine gamine. La laine infectée par un alcool bon marché. Et ses avances d'homme marié deviennent rapports forcés. Un jour il dénoue le sarong de Nour avec son bambou. Mais la jeune femme crie tellement fort qu'on l'entend jusqu'à Rangoon. Elle couvre sa paire de jambes et sa pudeur virginale. L'homme frappe son visage et la marque de sa bague en pierre de jade. Beaucoup de sang coule sur son pagne. Elle court à travers champ de campagne. Empoigne le goulot d'une pierre birmane et son agresseur frappe le crâne. Tombe une pluie de boue. L'homme au bout de son pouce n'a plus de pouls. Se rendre, c'est s'accuser un peu. Alors elle rentre chez elle sur un char à bœuf. Je partirai sur l'eau à l'aube comme l'ont fait mes parents. Une destinée de jeunes migrantes sur un cercueil flottant. De toute façon, y'a rien pour mon peuple dans les coins alentours. Musulmane, je trouverai mon bonheur vers Kuala Lumpur. Le Myanmar a mis à mal toute mon ethnie. Il faut naître bouddhiste ici en gros si tu veux être libre. Mieux lotis sont les chiens des anciens militaires. Moi je vis dans un camp déplacé, je dors à même la terre. Surpeuplé, mon village c'est le marché aux bestiaux. Et à chaque fois que je veux en sortir, un policier me questionne. Anti-Rohingyas, leur loi régule naissance et mariage. Car les peaux brunes auraient la fertilité animale. Apatride en prédation au pays du pacifisme. À cause d'extrémistes et d'une foule qui agit par suivisme. On vit un flagrant déni, qui par leur temple est béni. C'est décidé, demain matin je quitterai cette vie pénible. En arrivant au camp, quelques moines bonzes l'attendent. Elles remarquent les traces de sang sur leur robe safran. Au loin, elle voit sa matraque, sa mise à sac. Autour d'elle, les moines forment un cercle et l'attaque à 5. Des armes en bois de tech pilonnent son corps et sa tête. Les coups les plus violents l'atteignent. Sous son œil forment un autem. Les côtes flottantes perforées, sa 13 d'enfants pleine de terre. Son esprit se demande quand même quel traître a pu donner l'alerte.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Eh bien, nous voici de retour dans les arènes de l'écologie. Alors, Armand, c'était qui, là, le super rappeur que tu viens de nous passer ?
Paul Médine.
D'accord. Et la précédente chanson, celle de tout à l'heure ?
Ziné.
Ziné. Voilà. En tout cas, merci de ton aide parce que.
Parce qu'il faut.
Voilà, nous, on ne savait pas. Mais bon, on va en revenir à notre consommation verte, à la confiance qu'on peut apporter dans les marques ou pas, et puis surtout au travail de. Des contrôleurs, de la police de la consommation, avec Ambroise Pascal, qui est le chef de la division, la délégation transition écologique de la DGCCRF, chez Aligre FM, c'est pas fréquent. Et puis Béatrice, alors tu voulais rajouter quelque chose sur la notion de réparabilité, et en nous disant que l'éco-conception était à regarder avec...
Oui,
sans côté béat, quoi, sans côté béatitude, quoi.
Oui, effectivement, on pense que quand on fait de l'éco-conception, on travaille sur l'allongement de la durée de vie du produit. Mais c'est vrai qu'en éco-conception, on travaille par rapport à une unité fonctionnelle. Donc, et c'est là, parfois, que va se cacher l'obsolescence. Et donc, effectivement... pour améliorer la réparabilité, il faut bien l'intégrer en conception.
Donc en fait, on doit mieux démonter les trucs, dont les outils, les produits.
Voilà. Et après, effectivement, il faut que le produit arrive dans la bonne filière, voilà, donc, pour que ce soit effectif. Et c'est vrai que l'idée aussi, à terme, c'est qu'en éco-conception, on réfléchisse sur l'allongement de la durée de vie du produit. C'est-à-dire que par rapport à cette unité fonctionnelle, qui pour une perceuse, c'est le nombre de trous que...
On va faire.
Voilà, pour lesquels la perceuse est prévue.
Les portes de placard qu'on peut ouvrir. Voilà. Alors ça, par contre, effectivement...
Tout en faisant attention à ne pas faire de la surqualité, parce que si, finalement, on va demander un produit d'être très résistant... Voilà. Donc, ce n'est pas si simple. La juste qualité n'est pas simple, mais n'empêche que...
D'accord, mais grosso modo, ce que tu nous dis, ce n'est pas parce que c'est réparable que c'est prévu pour durer plus longtemps. Grosso modo, ce n'est pas pour ça que la tôle va être plus épaisse, pour faire simple.
Oui, parce que suit derrière les modèles d'affaires des entreprises qui souvent dépendent du nombre d'unités vendues. Bon. Et donc, si on allonge la durée de vie, on va vendre moins. Donc, il faut effectivement trouver des offres traditionnelles. Contre... Et c'est là-dessus qu'on travaille, nous, à la chaire, sur ces fameuses offres traditionnelles.
Ah bah c'est vrai que c'est compliqué parce qu'un industriel a besoin de renouveler ses ventes. Et en même temps, ce qu'on leur on dit, nous, c'est qu'il faut pouvoir allonger la durée de vie des produits pour limiter l'extraction, la prédation qu'on peut avoir sur les ressources naturelles. Mmh. Mais Ambroise, on voulait aussi parler de... j'ai perdu le fil, pour tout vous dire. Alors, si quelqu'un peut m'aider, on devait parler de...
Bah, je peux prolonger un tout petit peu sur l'éco-conception, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont difficiles à articuler avec les modèles économiques actuels. On a travaillé, par exemple, sur les sujets d'économie de l'usage, qui permettent, dans certains cas, de ne pas vendre les produits, mais de les mettre à disposition, des formats de type location, mais en faisant en plus attention à réduire les impacts environnementaux, ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Ça nécessite... des efforts particuliers d'information des consommateurs et d'organisation des entreprises. Par contre, il me semble qu'il ne faut pas limiter l'éco-conception à l'aspect réparabilité et longévité, parce que l'éco-conception, c'est aussi des choix de matières premières, des réductions d'impact à la source dans les procédés de fabrication pour être moins émissifs, pour consommer moins de ressources, qui peuvent aussi être des sources d'économie pour les entreprises elles-mêmes, d'ailleurs. Et ça, c'est en train de se développer. Il y a un règlement européen qui est sorti en 2024, là, qui commence à être décliné secteur par secteur et qui vise à fixer davantage d'exigences d'éco-conception, donc de qualité environnementale des produits. On ne parle pas seulement d'information des consommateurs à propos de ces qualités environnementales, on parle vraiment de contraindre davantage la qualité environnementale des produits. Il y a des enjeux, bien sûr, de souveraineté derrière, parce que ça peut être des atouts pour soutenir aussi ce qui est fabriqué sur le territoire européen. Et ça, on y travaille beaucoup.
Mais ça rejoint aussi cette problématique des normes européennes.
Oui.
Donc, ce que vous nous dites, c'est que l'Europe, dont les industriels français, dont cette espèce d'écosystème global, voudrait que ce soit mieux. Et effectivement, on va être confronté, moi je pense immédiatement, à la gadgetisation qu'on voit à poindre avec le commerce en ligne. On voulait aborder cette question-là. Donc Ben, t'avais pas un truc, t'avais pas vu quelque chose en passant devant le BHV l'autre fois ?
Non, mais c'est important de pouvoir parler de la durabilité et en quoi ça rentre en contradiction avec aussi d'autres exigences et d'autres paramètres.
Parce que effectivement, si on veut parler de...
Ah, tu parles de Shine.
Bah oui, quand même, je te tends une perche, il faut que tu la prennes. Parce que...
C'est bon, je suis passé devant le BHV. Bon.
Bien sûr, il y a des enjeux environnementaux énormes liés aux impacts de l'industrie textile, en l'occurrence, mais... Ce qui est important de souligner aussi, en lien avec la question plus large de la régulation du commerce en ligne et de produits notamment importés, c'est que ce qu'on constate chez ces acteurs-là, ce n'est pas uniquement des questions de manquement en matière d'information environnementale ou de qualité environnementale.
C'est non-respect des normes.
Non-respect d'autres qualité, normes, quoi. De pratiques commerciales aussi. Hein. Qu'est-ce qui a donné lieu à une amende de 40 millions d'euros adressée à l'entreprise en question ? C'est notamment des fausses promotions, des fausses remises de prix, des faux rabais qui trompent le consommateur simplement sur les prix, hein, sur des choses très fondamentales qui sont dans notre ADN, bien sûr, à la DGCCRF. Plus récemment, des constats de vente de produits intérieurs interdits, qui ont engagé plusieurs actions du gouvernement. Et là, il y a un enjeu à mobiliser à tous les échelons au niveau européen. Il y a des moyens d'action, y compris au niveau de la Commission européenne. Il y a une responsabilité des plateformes qui ne se substitue pas à celle des vendeurs des produits, mais qui vient s'ajouter notamment pour maîtriser les risques sur ces plateformes de commerce en ligne. Et donc, en matière de contrôle, le premier niveau, ce qu'on a fait, hein, c'est d'adapter toutes nos enquêtes au commerce en ligne, c'est-à-dire que la grande majorité des campagnes de contrôle qu'on mène, elles ont un volet en physique, disons, dans les magasins, elles ont un volet vente en ligne, bien sûr, et en particulier plateforme marketplace, et de la même manière sur les messages commerciaux, c'est aussi ceux des influenceurs, c'est pas seulement ceux de la publicité directe ou des étiquetages des produits, donc ça c'est quelque chose qu'on a fait. Et après, si on revient à la question environnementale, je dirais qu'il y a au moins trois aspects. Il y a la transparence, l'information environnementale, tout ce qu'on évoquait en matière de greenwashing notamment. Il y a des questions de régulation de la publicité, et particulièrement ce qu'on appelle les dark patterns, c'est-à-dire tout ce qui peut être mis en œuvre pour influencer de manière indue, de manière déloyale, avec des comptes à rebours, avec une création de sentiments d'urgence. Et puis il y a l'éco-conception, justement, c'est-à-dire faire en sorte que les produits qui sont vendus soient de bonne qualité, y compris au sens environnemental. L'horizon, c'est que demain, la durabilité, l'éco-conception des produits, ça fasse partie de la protection des consommateurs, hein, au même titre que la sécurité ou que la loyauté de l'information.
Quelque part, vous avez été pris un peu de pris de vitesse, comme géré comme la société en général, face à ces nouvelles pratiques. Ça fait depuis combien de temps que vous ciblez un peu ces acteurs qui aujourd'hui, on a l'impression que c'est le Far West quand même. On est revenu au temps de la réclame où on peut annoncer à peu près tout et n'importe quoi, comme dans les années entre les deux guerres où on nous disait qu'il y avait des crèmes nucléaires qui allaient nous donner bonne mine. Non, mais on en revient là, quoi, pratiquement.
Oui, alors il y a un phénomène de massification aussi de ces pratiques. Et quand je parlais de dark patterns, les mécanismes qui permettent d'avoir des pratiques commerciales qui donnent envie d'acheter en manipulant finalement le consommateur au moment de l'acte d'achat, c'est lié à des possibilités du numérique, hein, que le numérique offre et qui nécessitent une adaptation bien sûr de nos contrôles.
D'accord. Bon, en tout cas, c'est un métier plus passionnant qu'on imaginait, la DGCCRF. Alors, dites-nous tout.
Et j'imagine qu'avec les chats GPT, on peut faire aussi beaucoup de merveilles, entre guillemets, dans la falsification ou dans le...
Mais alors, c'est presque un vrai métier d'aventurier, quoi, aujourd'hui. Vous êtes, avant, il y avait une certaine routine ces dernières décennies, semble-t-il. Non, nous, on voit ça de l'extérieur, on n'a pas l'habitude. Mais donc aujourd'hui, si vous aviez deux, trois mots à dire à des jeunes, alors faut avoir fait quelles études pour aller bosser dans vos services,
hein. Alors, je pense que vous avez vu que les questions de consommation sont multiples, très variées. Hein. Oui. Il y a bien sûr un volet juridique important, donc on recrute notamment des juristes, mais pas que. On recrute aussi des gens qui ont un profil plus économique, parce qu'il faut comprendre les marchés, il faut s'adapter.
D'où la relation avec
Et également, il y a des aspects plus techniques, plus scientifiques, notamment quand on parle de sécurité des produits ou d'adaptation, y compris des moyens de contrôle au numérique et aux outils numériques. Donc il y a vraiment une grande diversité de profils. Ce qui est peut-être le dénominateur commun, c'est que c'est un métier... d'enquête, donc il y a un aspect de curiosité, il faut avoir envie de comprendre, il faut être rigoureux. Il faut
avoir quoi, un BTS, un master?
Alors, on recrute essentiellement...
École de journaliste?
Non, ça ne peut pas le faire. Ça.
on recrute essentiellement à Bac plus 3 pour le concours d'inspecteur, et il y a une centaine de postes par an à peu près, hein, donc sur ces deux voies, économique, juridique d'un côté, et scientifique, il y a deux options sur le concours. Après, ça permet d'évoluer sur des domaines très variés, hein, donc de la sécurité à la protection économique, la concurrence.
J'ai juste une question.
Oui, ben, fais vite, parce que
détecteur, quel est pour vous, quels sont les grands dangers?
En tant que, pardon?
Détecteur de menaces. Quel serait, d'après vous, le point sur lequel on devrait se focaliser davantage?
Alors, en tant que consommateur,
en 30 secondes.
Utiliser l'information disponible, mais se méfier des choses trop vagues ou trop générales. C'est le premier point. Après, en tant qu'administration, c'est l'adaptation permanente aux transitions écologiques, numériques, aux évolutions des marchés, et s'adresser à toutes les parties prenantes pour faire bouger les uns et les autres.
Donc, on a quand même un gros travail d'acculturation de la société. Les consommateurs, aujourd'hui, vous leur mettriez quelle note sur leur compréhension et leur vigilance?
Alors, je crois surtout que
sur 10.
Il faut pas mettre trop l'accent sur la responsabilité individuelle, parce que même les outils d'information, ils sont pas seulement là pour permettre des choix éclairés, on en parle beaucoup et ça compte, mais ils sont aussi là pour faire évoluer le système, pour faire évoluer l'offre, pour que les fabricants se fassent concurrence sur les paramètres environnementaux, pour que les distributeurs choisissent les bons produits. Et mettre trop l'accent sur la responsabilité individuelle, c'est oublier tout l'aspect système de consommation qui découle de beaucoup de facteurs, de la publicité,
oui,
de l'organisation de la production,
etc. Dans chaque consommateur, il y a aussi un volet citoyen, donc quelque part, il faut qu'on joue avec ces deux composantes ou ces deux bras.
Tout à fait.
Bon, bah écoutez, je ne sais pas si c'est les bonnes paroles, mais on va vous remercier. C'est déjà à fin, comme d'habitude, c'est trop court. Hein. Bon, bah Béatrice, tu reviens. Alors, le prochain coup, tu m'as dit que c'était quoi le sujet que tu voulais traiter avec Faut faire très vite.
La fresque de la mondialisation. Justement, d'accord. Mieux comprendre les impacts de la mondialisation sur les aspects environnementaux et sociaux.
Bon, en tout cas, merci beaucoup. Coup, on embrasse Pascal et puis on remercie Armand et Renaud, ouais, à la technique, qui ont été super brillants ce soir comme d'habitude. Et puis à la semaine prochaine, Ben, je te remercie.
François, je te remercie.
Bon voilà, on se remercie tous.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.